conférence sur le thème « Église, je t'aime » donnée à Tonneins le 19 mai 2008.
Pour commencer, ce verset bien connu, mais très beau. Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. C'est un peu ce verset qui m'a suggéré le titre « Église, je t'aime ». Le plan général des conférences d'aujourd'hui et de demain, en quatre points, l'Église c'est quoi ? Deuxième point, les rides de l'Église, après la pause. Demain, comment aimer l'Église ? Et les atouts et l'espérance de l'Église. La première des choses, lorsqu'on parle d'un sujet, il faut savoir de quoi on parle. Et ce que je vais vous dire, certainement, vous le connaissez, mais il n'est pas inutile de revenir à des notions fondamentales. Et pour identifier l'Église, j'ai choisi six titres, six chapitres courts. Son nom, sa naissance, sa vie, son espérance et ses représentations. Commençons par son nom. On entend parler d'église ou d'assemblée. À vrai dire, les deux termes sont équivalents, le terme « ecclésia » pouvant signifier « tirer d'eux » ou encore « tirer d'eux » dans le but de se rassembler. Pas tirer de quelque chose pour rester dans le vide, mais pour avoir un objectif, se rassembler. Donc, église, assemblée, deux termes totalement équivalents. Et je me rappelle notre frère, M. André Gibert, qui a écrit une brochure qui s'appelle l'église ou l'assemblée, je crois, et qui me disait... Ah, j'aurais voulu mettre uniquement le terme « église » parce que nous avons eu tendance à penser que l'assemblée, c'était la vraie, sous-entendu la nôtre, et que les autres n'étaient que des églises, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc le sens du mot original nous indique qu'il s'agit de personnes appelées hors du monde, non pas pour être dispersées, mais pour être rassemblées, parce que unies, par des liens communs. On trouve dans la parole plusieurs expressions. La première, c'est l'assemblée de Dieu. C'est une appellation très courante qu'on trouve en Actes 20, par exemple. Paul dira aux anciens d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » L'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. On trouve une seule fois l'expression « l'assemblée du Christ ». C'est assez surprenant parce que on pense toujours que l'assemblée est en relation avec Christ, et on va voir les différents titres de l'assemblée, les différents caractères, mais cette expression est unique. Romains 16, verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les assemblées du Christ vous saluent. » Et, excusez-moi, je n'ai pas corrigé, ici je mettrai l'assemblée des Tonenken. Pourquoi pas. Colossiens 4, 16, « Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. » Depuis peu de temps, je suis dans l'Ardèche et j'habite Saint-Julien en Saint-Alban. Mais si je vous faisais deviner, vous ne trouveriez jamais comment s'appellent les habitants de Saint-Julien. Eh bien, ce sont les Julbancénois. Et si l'apôtre Paul nous écrivait, il dirait « à l'assemblée des Julbancénois ». Vous voyez ? Donc, ça existe, ce sont des appellations bibliques. Considérons sa naissance. De sa naissance, si vous voulez, on va considérer l'Église de sa naissance à l'éternité. Donc, dans le Nouveau Testament, la première mention, on le sait bien, de l'Assemblée se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Mais il faut savoir que cette expression courante dans l'Ancien Testament, l'Assemblée, n'est employée que deux fois dans les Évangiles. Le mot Assemblée existe dans l'Ancien Testament, mais dans l'Évangile que deux fois, très peu. Mais elle deviendra fréquente dans le reste du Nouveau Testament, donc 78 emplois. Le premier verset qui parle de l'Assemblée est un verset important lorsqu'on réalise le contexte. C'est au moment où le Seigneur demande à ses disciples, ayant terminé son ministère galiléen, il pose la question à ses disciples, et il leur dit, mais qui disent les hommes que je suis ? Il dit, bon, les uns disent Jérémie, l'autre un des prophètes, ou Jean le baptiseur. Et finalement, la question importante, c'est, et vous, qui dites-vous que je suis ? Alors Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur enchaîne en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et puis, après, il est dit, eh bien, sur ce roc, sur la déclaration que tu viens de faire, que le Christ est le Fils du Dieu vivant, eh bien, sur cette déclaration, je bâtirai mon assemblée, parce que l'assemblée est bâtie sur Christ. Et l'apôtre Paul ne se trompera pas en disant « Nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » Donc sur ce roc, je bâtirai mon assemblée et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voilà la première mention de l'assemblée ou de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc son acte de naissance, eh bien, c'est le jour de la Pentecôte. Extrait de naissance, le jour de Pentecôte de l'an 30, environ, c'est pas grave, à 9h du matin est née dans la ville de Jérusalem une petite fille nommée Église. Déclaration du Père qui, lecture faite, est invitée. Bon, vous avez compris que j'ai repris l'extrait de naissance de ma femme, je crois, pour trouver la formulation. Mais l'Église commence à la Pentecôte, Christ ressuscité monte au ciel et du ciel. 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit sur la terre pour baptiser en un seul corps les croyants. 1 Corinthiens 12, verset 13. Donc c'est à ce moment-là que naît historiquement l'Église, en acte 2. Considérons maintenant rapidement son histoire. Ce n'est qu'un survol. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, nous présente une histoire prophétique incontestable de l'Église, une histoire prophétique de l'Église, sous les différentes appellations que nous connaissons, Éphèse, Smyrne, Pergame. Et il y a une correspondance historique extraordinaire. Donc, il y a plusieurs états, on peut en considérer 7. L'Église primitive, au tout début, c'est l'Église donc représentée par Éphèse. Et déjà, lorsque l'Esprit de Dieu parle dans le livre d'Apocalypse, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Et nous sommes là dans les années 20 ans, 30 ans, si vous voulez, après la naissance de l'Église. Donc on voit déjà qu'il y a des problèmes dès le début. Et l'église d'Éphèse nous présente la dégénérescence de l'église primitive, créée par Dieu le jour de la Pentecôte. Après, nous avons de 100 à 300 l'église persécutée, représentée par Smyrne. Tu vas avoir une tribulation de 10 jours, je ne peux pas rentrer dans les détails. À partir de 312, nous avons l'église de Pergame, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le monde dirige l'église parce que Constantin, faisant profession de conversion au christianisme, va lui-même diriger le concile de Nicée au-dessus de l'église pour des questions qui le dépassaient largement. Et c'est cette église représentée par Pergame. Et puis nous arrivons à Thyatire, environ, j'ai mis 607, parce que c'est là qu'on trouve avec certitude la première appellation de pape pour l'évêque de Rome. Et c'est un changement. C'est l'Église maintenant qui dirige le monde. Et seulement, selon l'expression de l'Apocalypse, tu as la royauté sur les rois de la terre. Et c'est très simple de voir qu'il s'agit là de l'Église catholique, apostolique et romaine, selon son appellation. Et si vous vous rappelez simplement l'ensevelissement de Jean-Paul II, vous avez vu les plus grands de la terre, y compris George Bush, à genoux devant la dépouille mortelle de Jean-Paul II. L'Église, dans un sens, dirige le monde. J'ai marqué sauf l'islam, qui en 631, bien sûr, sera un ennemi constant pour l'Église. En 1054, il y a le grand schisme Orient-Occident et la suprématie de Rome est contestée par l'Église qui prendra le nom d'orthodoxe. En 1517, Martin Luther expose ses thèses, ses 95 thèses sur les murs de la cathédrale de Wittenberg. Et on voit que cette fois, c'est la suprématie, l'enseignement de Rome qui est contesté. Et tous ces mouvements, que ce soit orthodoxes ou, on va dire, protestants, dans le sens le plus large, vont sortir, comme vous le voyez sur la droite, vont sortir de l'Église catholique. Et puis, cette Église protestante va elle-même dégénérer. Rappelez-vous simplement le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, où finalement le rationalisme va faire des dégâts presque irréversibles dans l'Église de Jésus-Christ, du moins celle qui porte son nom, puisqu'on accepte finalement que ce que la raison peut concevoir. C'est donc la fin du siècle des Lumières, Rousseau avec des penseurs comme Rousseau, avec des ennemis comme Voltaire, Rousseau qui disait « l'homme est bon ». Ça va être pas le début de l'humanisme qui commence plutôt au XVIe siècle, mais petit à petit, ce n'est plus Dieu qu'on va adorer, mais c'est l'homme. Et tout cela fait partie d'un projet qui serait trop long et hors de place de développer ici. Donc en 1534, c'est plutôt l'Église avec Calvin. Et puis, on arrive donc au 19e siècle, vers 1800. On peut penser que ça a été effectivement l'Église de Philadelphie. Gardons-nous bien de penser que c'est nous. Mais pensons que Dieu a fait un réveil dans son Église, dans beaucoup de milieux, pour que les gens s'attachent à Christ, pour que les gens attendent son retour, pour que les gens travaillent dans l'évangélisation. Donc, réveil important du 19e siècle, début du 19e siècle, et ça peut caractériser d'une façon très globale le mouvement évangélique. Et nous savons qu'il y a une 7e église qui s'appelle Laodicée. Et j'ai mis le retour au bourbier. Alors attention, le retour au bourbier, c'est pas que pour les autres. Le retour au bourbier, eh bien, toutes ces formes de l'Église ont tendance, si vous voulez, à retourner au bourbier. Tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid, tu es ni contre, ni pour. Et la caractéristique, c'est que tu ne vois pas. Et c'est une situation très triste. Et nous avons à veiller à cet égard, pour que Dieu nous garde d'une prétention quelconque. Ce n'est pas du tout intéressant de savoir si on est meilleur que les autres ou si on est pire que les autres. La seule chose qui nous intéresse et le seul message que j'ai à délivrer, c'est que nous devons nous occuper de nos affaires, de notre responsabilité envers Dieu, de notre attachement à Christ. Où en suis-je dans mon attachement au Seigneur Jésus? Où en suis-je dans l'amour de l'Église que Christ aime? Parce que, à la fin des quatre dernières églises, il est mentionné le retour du Seigneur. Jésus revient. C'est un grand jour, mais c'est aussi le jour où on va rendre des comptes. Nous serons tous manifestés devant le tribunal de Christ, nous dit la parole de Dieu. Regardons brièvement quelle est l'espérance de l'Église. Alors j'ai pris le livret de famille de mes parents décédés. Je modifie un peu, effacer certaines choses, mais j'ai dit déjà tout est prêt. L'apôtre Paul en 2 Corinthiens 11 dira « Je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Autrement dit, toutes nos affections sont pour Christ ou devraient être pour Christ. Et quand j'ai mis « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Oui, je viens bientôt, dit le Seigneur, et l'Église dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Donc tout est prêt, voyez, il ne reste plus qu'à signer, pour ainsi dire, sur le livret de famille, lorsque les noces de l'agneau seront venues. Et voyons maintenant, de façon un peu plus approfondie, les représentations de l'Église. Il y a différentes images qui sont employées. La plus courante, et vous voyez les références qui apparaissent, c'est un corps dont Christ est la tête. Je vous lis quand même le verset d'Éphésiens. Dieu a fait asseoir notre Seigneur Jésus-Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef, c'est-à-dire tête, sur toute chose, à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, première image, simple, un corps dont Christ est la tête. Ce n'est pas la seule, loin de là. L'Écriture prend aussi pour image un couple. Je vous ai lu déjà ce verset de 2 Corinthiens 11, Je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Et il s'agit ici d'un couple dont Christ est, non pas la tête, mais l'époux. Dans les images qui sont encore bien connues, nous savons que l'Église est comparée à une maison. À une maison. Et à ce moment-là, Christ n'est ni la tête, ni l'époux, il est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle on construit tout l'édifice. Mais cette image est employée avec différentes acceptions, c'est-à-dire différents sens, différentes significations. On trouve l'Église présentée comme une maison, mais laissée à la responsabilité de Christ. Alors je vous ai mis un beau château là. Et à ce moment-là, c'est des authentiques croyants. C'est un peu une anticipation de ce que l'Église sera au ciel. Et puis, l'Église est présentée comme un ensemble de personnes qui professent le christianisme. À ce moment-là, elle est laissée à la responsabilité des hommes. Et l'Église, bon, ce sont ceux qui portent le nom de chrétiens. Et il faut que nous fassions attention à cette signification. On peut facilement dire, mais non, l'Église, c'est l'ensemble des authentiques croyants. Ce n'est pas vrai. Un jour, mon beau-père était en avion en se rendant en Israël. Il était à côté d'un juif. Et puis, il parle. Et finalement, bon, à un moment, le juif lui dit, mais vous savez, avec ce que vous, chrétiens, vous nous avez fait. Et d'un seul coup, mon beau-père a réalisé que pour un juif, qu'on soit un authentique croyant, qu'on soit ceux qui ont collaboré avec Pie XII ou autre, et avec Hitler, pour eux c'est pareil. Ce sont des chrétiens. Et on ne peut pas passer à côté légèrement de cela. Si un musulman me dit « mais regardez ce que les chrétiens ont fait avec les croisades », je ne dois pas dire « c'est pas moi », parce que bien évidemment je ne vivais pas au XIe ou au XIIe siècle, c'est clair. Et d'un autre côté, je dois baisser la tête, j'ai dit, et dire « oui, c'est horrible, vous vous rendez compte ce qu'on a pu faire au nom de Christ ?» Et on arrête le débat. Mais c'est juste, je porte le nom de chrétien, il portait le nom de chrétien, j'ai une responsabilité vis-à-vis du monde en tant que chrétien, c'est tout. C'est tout. Donc, cette maison laissée à la responsabilité des hommes nous concerne aussi et nous en faisons partie. Et ensuite, ça peut être un lieu, un espace, une sphère où les croyants vivent ensemble, donc on va dire l'assemblée locale. C'est pas tout. L'assemblée est aussi présentée comme une famille. Hébreux 2, versets 11 à 12. « Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » À mes frères. Jésus nous appelle ses frères. La réciproque peut se discuter, mais dans ce sens, c'est indiscutable. C'est donc une famille dont Christ est le frère aîné. Ce sont les images que prend la parole. Et normalement, dans une famille, il doit y avoir de l'amour les uns pour les autres, entre frères. Voici, dit la parole de Dieu, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est pas tout. La Bible prend encore comme image le troupeau. Le troupeau, on connaît bien ces passages de Jean 10, dont Christ est le berger. Tout ça sont des images différentes et complémentaires. Ce n'est pas tout. L'Église est présentée encore comme un peuple. Alors c'est vrai que l'expression « peuple » est généralement en rapport avec Israël, mais dans 1 Pierre 2, on peut lire « Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et là, c'est une notion que peut-être parmi nous, je ne vous connais pas, je ne sais pas vos origines, mais dans les assemblées que je fréquente, c'est une notion qu'on laisse un peu de côté. On va dire facilement, oui, mais pour nous, Christ, c'est l'époux, notre époux bien-aimé. D'accord. Mais est-ce que Christ n'est pas notre roi? Ah non, ça c'est en relation avec Israël. Doucement. Il dit, mais nous, c'est nous qui sommes rois. Et oui, d'accord, mais il y a un verset qui dit quand même que lui, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il est roi aussi un peu de nous. Et dans l'image du peuple, il est roi. Ça ne veut pas dire, parce que certains exagèrent ce titre de gloire du Seigneur, peut-on encore l'exagérer, mais c'est-à-dire que s'il devient unique, il n'est pas suffisant, parce qu'il y a d'autres images. Mais pourquoi ne pas donner à notre Seigneur ce titre qu'il a? Il est, lorsque nous sommes considérés comme le peuple de Dieu, il est aussi le roi. Et cela parle de toute l'autorité qu'il peut avoir sur son peuple. Mais ce n'est pas encore tout, hein. Ne croyez pas que c'est fini. Il y a d'autres images, une race élue, 1 Pierre 2, 9, une nation sainte, 1 Pierre 2, on vient de le lire, hein, une sacrificature royale, 1 Pierre 2, 9, une cité, ah oui, on a aussi une cité, Apocalypse 21, 2. Donc, une variété d'images, sans aucun doute, mais avec un seul message. Quelle que soit l'image, il a toujours la prééminence. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ces différentes images sont là pour nous montrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un danger. Il y a un danger. Et le danger est le suivant, c'est de mélanger les images. Si on mélange les images, eh bien, ça ne va pas. Et pour être simple, je dirais, Christ est l'époux de l'Église. Je change d'image. L'Église est le troupeau du Seigneur.